I had this thought a while ago. My darling cannot understand what I have done or what would do in these blind bitter.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, là, faut essayer.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir.
Et bienvenue sur le Canu Info du lundi.
Il est 19h06 et on est un peu à la bourre.
Alors, on va bien sûr commencer par les brèves. Et ensuite, on enchaînera à l'international avec un sujet sur les nouvelles ventes d'armes françaises aux pétromonarchies. Et on continuera sur le référendum en Nouvelle-Calédonie.
Et puis au national, on reparlera des fachos. Cette fois, ce sera Zemmour à Villepinte. On enchaînera avec Margot Pinault et surtout la Rolex de son conjoint slash entraîneur. Ensuite, on parlera des manifestations et de la grève de la santé, du social et du médico-social. Et pour finir au national, on parlera de la mort de Pierre Rabhi.
Et au local, on va parler de ce cher Alexandre Vincent D, le maire Les Républicains de Rieux-la-Pape.
Mais tout de suite, donc, les brèves.
Et puis, on aura une interview aussi.
Ah oui, on aura une interview.
Une interview
autour d'une mobilisation.
Un procès pour agression sexuelle.
À Lyon.
À Lyon.
Et donc à l'international, c'est ça?
Et non, comment
ça? Les brèves.
Allez, oui, bonne nouvelle, ça y est, la campagne de Macron est enfin lancée. On est bien content. Hein. Donc sous le hashtag 50+, vous pouvez retrouver toutes les bonnes raisons d'avoir envie de vous pendre plutôt que de revivre ce quinquennat. On salue le panache pour faire campagne sur la thématique, je cite, 5 ans de plus pour la solidarité et l'égalité. Dans la gêne, il n'y a pas de plaisir. On notera aussi la Ben Punchline de Gabriel Attal dans Le Parisien de ce dimanche pour montrer que En Marche est plus à droite que la droite de Pécresse. Je le cite, c'est nous qui avons réformé le marché du travail, qui avons fait baisser la fiscalité et recréer des postes de policiers. En effet, CQFD.
Et ce samedi 4 décembre 2021 avait lieu devant le palais de justice de Rouen un rassemblement contre la politique migratoire et en hommage à une personne enfermée au CRA, centre de rétention administrative de Wassel, qui s'est suicidée le 23 novembre 2021, la semaine dernière donc. C'est le 7e décès d'une personne retenue, au moins le 7e décès d'une personne retenue dans un CRA depuis 2017. Et la même semaine, une autre personne enfermée dans le même centre s'est taillée les veines et est partie aux urgences. Elle est aujourd'hui hors de danger, mais un autre jeune homme a aussi avalé du shampoing, indiquant qu'il voulait mourir plutôt que d'aller en prison pour avoir refusé un test PCR. Que ce soit dans la Méditerranée, dans la Manche ou dans les lieux d'enfermement, la politique migratoire tue tous les jours et on rend nous aussi hommage à l'une de ces nombreuses victimes. Solidarité avec les personnes enfermées.
Et après la réforme LMD, les lois Pécresse, la masterisation des concours, Parcoursup et la réforme du bac, c'est l'arrivée talam de Trouver mon master. Surprise de cette fin d'année, le ministère de l'Enseignement supérieur nous sort une bien belle nouvelle plateforme d'affectation par algorithme pour la sélection au master dès février 2022. Alors pour le moment, on n'a pas beaucoup d'infos puisque la concertation avec les syndicats a eu lieu le 25 novembre et que comme toujours avec ce gouvernement, le calendrier d'application est ultra serré. On ne sait pas trop où on va, sinon vers plus de sélection et d'injustice à l'université.
Et on enchaîne tout de suite avec...
International. Et donc, comment se portent les ventes d'armes françaises?
Bien l'intro. Super. Eh ben, elles se portent super bien, puisqu'une fois n'est pas coutume, la France vend des armes à des dictatures. Alors, celles validées par les Occidentaux, bien sûr, il y a les bonnes, il y a les mauvaises. Suite et grâce à un voyage du président de la République, entouré d'une cohorte de patrons et de lobbyistes de l'industrie militaro-industrielle française. Alors, ces dictatures, en l'occurrence, ce sont les Émirats Arabes Unis, le Qatar et l'Arabie Saoudite, les entreprises françaises Thales, Safran et, comme toujours, Dassault. Alors, vendredi a commencé par Dubaï pour y rencontrer Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, qui est le prince héritier d'Abu Dhabi, de la richissime famille Al Nahyan, donc il l'est depuis 2004. Alors entre autres, il est accusé de nombreux actes de torture, notamment au Yémen, mais aussi aux Émirats. Il enferme à tour de bras les journalistes, les opposants et opposantes politiques, et a transformé l'État en véritable régime policier en mettant en place une cybersurveillance généralisée. Il est hyper pote avec Al-Sisi en Égypte, connu pour être un grand démocrate lui aussi, et bien sûr, il est hyper pote avec les dirigeants du Qatar et de l'Arabie Saoudite. C'est aussi un de ses potes, le général de police émirati Ahmed Nasser Al-Raizi, qui a été élu à la tête d'Interpol le 25 novembre dernier. Donc Interpol, on vous rappelle que c'est situé à Lyon. Alors, en ce qui concerne le Qatar, Macron y est allé samedi. Il a rencontré Tamim Ben Ahmad Al Thani, au pouvoir depuis 2013. Lui aussi prince héritier, évidemment. C'est le sixième souverain le plus riche du monde. Alors, au niveau droits de l'homme, c'est pas ouf non plus, hein. Par exemple, la diffusion et la publication de propos tendancieux sont passibles de 5 ans d'emprisonnement et de l'équivalent de 25 000 $ américains. Au niveau droit du travail au Qatar, non plus, c'est pas terrible, hein, puisque le Qatar, futur hôte de la Coupe du Monde de football 2022, a réduit des dizaines de milliers d'ouvriers et d'ouvrières qataris ou étrangers en esclavage, dont des milliers sont déjà morts dans des conditions de travail absolument atroces, et ça c'est archi connu. Pour la dernière étape, c'était il y a 2 jours, et ça a duré 2 jours, Macron est allé voir MBS, le fameux Mohamed Ben Salman, lui aussi prince héritier d'Arabie Saoudite, depuis 2017. Grand humaniste inconnu qui, quand il est un peu contrarié, eh bien fait découper en morceaux les personnes qui ne lui reviennent pas, comme par exemple Jamal Khashoggi le 2 octobre 2018. C'est un président dictateur d'une des pires dictatures sunnites, en l'occurrence wahhabite, emprisonnement, torture, surveillance généralisée, ils sont permanentes, et bien sûr les femmes, comme pour les autres pétro-monarchies, mais probablement un peu plus en Arabie Saoudite, n'ont absolument aucun droit et sont réduites en quasi-esclavage. De plus, on le sait, l'Arabie Saoudite finance très largement et arme Al-Qaïda au Yémen notamment et Daesh en Syrie. Alors, en ce qui concerne les entreprises françaises, il y avait le motoriste aéronautique Safran qui a signé un contrat de par exemple 8,5 milliards d'euros avec l'Arabie Saoudite. Airbus a vendu 26 hélicoptères H145 ou H160. Dassault a signé un contrat militaire historique de 80 avions de combat Rafale aux Émirats Arabes Unis, etc. En tout, Dassault a vendu pour 17 milliards d'euros d'armement militaire.
Alors, tu nous confirmes que la vente d'armes se porte donc très bien.
Ah oui, alors passons les détails de ces ventes, parce qu'il y en a eu beaucoup. Rappelons quand même que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis font régner leur loi au Yémen depuis plus de 7 ans via les armements occidentaux et ces technologies de pointe. Conséquence, des dizaines de milliers de morts, voire des centaines de milliers de morts, 7 millions de personnes qui sont au bord de la famine. Les armes qui tuent au Yémen sont françaises, américaines et britanniques. Et ça, c'est l'ONU qui le dit. C'est pas seulement des dizaines et des dizaines d'ONG qui ont toutes les preuves à l'appui. Tout le monde le sait, mais l'État français continue à nier son implication dans les très nombreux crimes de guerre et contre l'humanité menés par la coalition de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Encore une fois, la France ici est responsable de mensonges d'État, de complicité de crimes via ses nouvelles ventes d'armes, en affichant qui plus est via le Twitter de Macron une sérénité absolument détestable. Je vous le cite, stabilité régionale, lutte contre l'islamisme radical, promotion de l'attractivité de la France, ces 3 priorités, je viens de les porter aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et à l'Arabie Saoudite. Eh bien non, comme d'habitude, la France impérialiste et l'une des principales vendeuses d'armes au monde a du sang sur les mains. À quand la fin de l'impunité ?
Hashtag 50+.
Et allez, très vite, on enchaîne avec la Nouvelle-Calédonie et le référendum.
Mais voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? Et oui, telle était la question posée en 2018 lors du premier référendum d'autodétermination prévu par l'accord de Nouméa en 1998. Or, bientôt, cette même question va être reposée. En effet, ce dimanche 12 décembre, aura lieu le 3e et dernier référendum d'autodétermination. C'est à nouveau un moment symbolique fort pour la lutte kanak pour l'indépendance, bien que celle-ci, évidemment, ne s'arrêtera pas et jamais aux portes des urnes. Il faut dire que les modalités de ce rendez-vous important a été au centre de manœuvres coloniales de l'État français, à commencer par la question de la date du scrutin. Alors même que les représentants politiques du peuple kanak avaient explicitement demandé son report pour cause de deuil suite aux nombreux morts causés par l'épidémie du Covid, le gouvernement français, fort de son autorité que lui a concédé 168 ans de colonisation, a refusé tout ajournement de la date de la consultation référendaire. Cette décision, outre le fait qu'elle piétine les us et coutumes du peuple kanak, aura pour conséquence qu'une grande partie du mouvement indépendantiste a d'ores et déjà décidé de ne pas participer au scrutin. En effet, quelle légitimité pourra donc avoir un référendum sur l'indépendance sans la participation du peuple concerné ? À n'en pas douter, le gouvernement français y verra la confirmation de son bon droit colonisateur et se félicitera de passer pour un pilier stratégique dans l'axe Indo-Pacifique. Mais autant le dire tout de suite, la consultation de dimanche, sans la participation du peuple kanak, est déjà nulle et non avenue. N'en déplaise à Macron, mais ce référendum ne marquera pas la fin des revendications autonomistes. Nous ne sommes ni naïfs, ni amnésiques. Et, depuis plusieurs années déjà, nous avons compris que les vieux démons coloniaux ne sont pas morts et continuent de hanter la conscience des dirigeants français actuels, comme ils le faisaient hier chez leurs prédécesseurs. Voilà ce que nous dit le peuple kanak dans une lettre ouverte publiée la semaine dernière et signée par les principales forces indépendantistes. Profiter de la crise sanitaire pour faire passer en force un scrutin sur l'avenir d'un peuple qui a décidé de boycotter ce scrutin, voilà donc ce que s'apprête à faire l'État français dimanche prochain. De son point de vue, tout est bon pour maintenir un pays sous tutelle. Faire des alliances avec les partis loyalistes ou bien choisir un corps électoral large qui met les Kanaks en minorité sur leur propre territoire. D'ailleurs, Macron sait très bien que ce processus n'est pas démocratique, mais sinon, pourquoi dépêcher 2 mois avant le référendum 1000 gendarmes, 15 escadrons mobiles, le GIGN ainsi que 100 flics supplémentaires en plus des forces déjà présentes sur le territoire kanaki? Face à une progression constante du oui lors des 2 dernières précédentes consultations, 43% en 2018, puis 47% quasiment en 2020, le gouvernement français crée donc les conditions du non, tout en se préparant à une violente répression. Oui, le FLNK, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, a raison. Les vieux démons coloniaux ont la peau dure. Soutien total à l'indépendance de la Kanaky.
Et tout de suite, on va écouter un petit Vince avec son son Égalité. Vince qui va passer au Lyon Antifa Fest vendredi soir. On va vous en reparler tout à l'heure.
Les paroles de certains ont noirci ma vision. Même quand tout part à la dérive, ils le tournent à la dérision. Médisant les médias servent les puissants, méprisant les barreaux, nous les brisons. À qui la faute si c'est toujours les mêmes qui remplissent les prisons? L'État baisse les bras devant l'état des banlieues. L'avenir est noir, la justice est clémente pour les hommes de pouvoir. Quand il y a bavure, ça se termine en non-lieu. Pour que ça change, suffit pas de le vouloir. Le temps passe, on peut pas dire qu'on vit mieux. Ton chemin, on l'a tracé pour toi, selon ta classe, ton genre et ton milieu. La langue bien pendue car la vôtre est de bois. Manipule l'opinion pour récolter des voix. Ils disent qu'ils le font pour sauver notre avenir, mais se foutent notre avis quand faut voter des lois. T'as des diplômes, tu nettoies dès les toits. Si t'as des rêves, le système te les broie. On n'apprend pas tous à la même école, on grandit pas tous sous la même étoile. Une poignée de fortunés qui possède la moitié des richesses du pays. Début du mois déjà à découvert, tu galères à payer ton crédit. On se fait bouffer par des grandes entreprises, étouffe des affaires en cas de litige. Ça les arrangerait bien qu'on travaille jusqu'à nos 80 piges. On est loin d'être tiré d'affaires. Ici faut se taire et taffer. L'égalité est un désir, mais son contraire, lui, est un fait. Tout est à faire, et dans ce qu'ils disent, tout n'est pas vrai, tout n'est pas vrai. D'ici je vois l'horizon qui devient noir, mais nous font croire que tout est parfait. L'égalité, excusez-moi, mais votre concept, je le saisis pas. Moi je vois des hommes en dessous des ponts, et j'en vois d'autres au-dessus des lois. Puis j'en sais, puis je me dis que le bilan est dur à nuancer. Du mal à m'ambiancer, m'ambiancer. Je galère à pioncer toute la nuit, je fais le tour de la ville comme un ambulancier. Ouais, on sature, même quand on gueule, personne ne nous écoute. Ça fait longtemps que ça dure, j'écoute leur discours et ça me dégoûte. Malgré les coups, dans l'ossature, on a toujours su rester debout. On a beau se serrer la ceinture, c'est toujours dur de joindre les deux bouts.
Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut et plus on descend, plus on est nombreux. Et
comme on c'est... Vraiment... Allez, on coupe en plein milieu parce qu'on est en retard. Ouais. Donc j'ouvre les micros et puis on enchaîne tout de suite.
National.
Et on va parler tout de suite de la justice qui relaxe encore un agresseur.
Ouais, alors bon, c'est Margot Pinault qui est judokate, c'est pas l'agresseuse évidemment, c'est l'agressée, judokate française médaillée d'or aux Jeux Olympiques par équipe au récent JO de Tokyo, qui a porté plainte contre son compagnon et entraîneur Alain Schmitt, puisque ce dernier l'a tabassé dans la nuit du 26 au 27 novembre, chez eux à Blanc-Bénil, en Seine-Saint-Denis, en pleine nuit donc. Selon certains médias, la situation aurait dégénéré suite à une dispute conjugale, ce qui met d'ailleurs un peu en doute la parole de la victime. Sauf que, bon, déjà, aucune femme ne s'amuse à dire qu'elle a été tabassée par son compagnon. Et puis, quand on voit la tête de Margot Pinault prise en photo par ses voisins suite à cette dispute qui, soi-disant, dégénère, il n'y a absolument aucun doute. Elle a été rouée de coups de poing notamment. Sa tête a été frappée au sol à plusieurs reprises, puis étranglée. Et pourtant, Alain Schmitt, donc son compagnon et entraîneur, qui a été interpellé le soir même et qui est passé en comparution immédiate mardi dernier pour violence conjugale, hein, pas violence tout court, on est toujours dans ce truc de conjugalité, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Bobigny, qui a estimé n'avoir pas assez de preuves de sa culpabilité. Alain Schmitt a démenti du début à la fin avoir porté le moindre coup, alors qu'il est tout simplement impossible de le croire. Ça, soyez-en certains et certaines. Margot Pino, donc je la cite, ce qu'elle a raconté ensuite, c'est « Que vaut leur défense calomnieuse face à mes blessures et le sang jonchant le sol de mon appartement ? Que manquait-il ? La mort au bout, peut-être ? C'est probablement le judo qui m'a sauvé. Et mes pensées sont aussi pour celles qui ne peuvent pas en dire autant. Puisque, effectivement, hein, tous les trois jours en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Alors que Margot Pino, elle, a effectivement la possibilité de médiatiser cette affaire, car c'est une judokate reconnue assez récemment. Mais effectivement, malgré tout, face à l'évidence, la justice patriarcale a relaxé son agresseur. Bien souvent, très généralement, les plaintes en France sont classées sans suite ou méprisées dans les commissariats, de la même manière que pour les agressions sexistes et sexuelles. Et ça, eh bien, il va bien falloir que ça cesse un jour.
Et oui, c'était le 107e féminicide ce week-end. On rend hommage à toutes les victimes du patriarcat que la justice n'a pas l'air très prête à défendre. Et on passe tout de suite à la mobilisation dans la santé.
Oui, dans les faits divers nationaux de la semaine dernière, on pouvait lire que la maire d'une commune de la Sarthe demandait une enquête interne suite au décès d'un patient à l'hôpital public faute d'anesthésiste, c'est-à-dire faute de moyens. On a envie de lui répondre « Madame la maire, ne cherchez plus, pas besoin d'enquête ». Loin d'être un fait divers, c'est ce genre d'événement qui risque de se multiplier alors qu'on entame la cinquième vague de Covid-19 et que le gouvernement Macron, comme les précédents, était plus concentré sur le thème de l'immigration ou de la sécurité que sur celui de la santé. Pendant ce temps, les hôpitaux manquent de personnel, des lits ferment et les démissions se succèdent. L'hôpital n'allait déjà pas bien avant le Covid-19, mais c'est encore pire depuis. Les personnels hospitaliers, qui demandent un plan d'urgence pour l'hôpital public et des moyens pour de meilleures conditions de travail, se mobilisent donc. Et plusieurs collectifs et syndicats de professionnels hospitaliers et libéraux appelaient à la grève dans toute la France à partir de samedi 4 décembre. Une manifestation a rassemblé environ 6000 personnes à Paris samedi et la mobilisation se poursuit par une journée nationale de grève des secteurs de la santé, du social et du médico-social demain, mardi 7 décembre. Une intersyndicale d'organisations représentant ces secteurs appelle les salariés du public comme du privé à se mobiliser par tous les moyens possibles, grève, assemblée générale, etc. Pour refuser la poursuite de la marchandisation et la financiarisation de ces secteurs qui dégrade et met à mal l'accompagnement des publics en plus de compter des salariés avec de très mauvaises conditions de travail et des salaires très bas. Donc les salariés mobilisés expliquent que si Emmanuel Macron a affirmé le 9 novembre que les soignants ont été augmentés de 200 à 400 euros, aucun accord, donc ça c'était dans le Ségur, aucun accord n'a encore été signé pour la transposition du Ségur de la santé dans le champ social et médico-social pour le personnel médical et paramédical et il ne s'applique donc pas. De plus, pour tout un tas de salariés de l'accompagnement, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, assistants sociaux, il ne s'applique pas non plus, voire même le ministre conditionne l'application du Ségur à l'acceptation de la fusion de plusieurs conventions collectives en une convention unique de bas niveau avec des salaires un peu plus attractifs en début de carrière, mais stagnants sur les fins de carrière, et surtout agrémentés d'objectifs et de missions attendues par les employeurs, autrement dit une grille de salaire au mérite. Les organisations syndicales et collectifs revendiquent donc sans attendre une augmentation de salaire de 300 euros minimum pour toutes et tous sans discrimination des professions, l'amélioration des conditions de travail au travers d'embauches immédiates de professionnels diplômés en CDI dans le secteur privé et sous statut dans la fonction publique, la fin des contrats précaires et le départ en formation des salariés non diplômés, des moyens financiers et humains à la hauteur des besoins de la population. Et à Lyon, des rendez-vous sont donnés demain à 13h30 place Jean Massé pour une manifestation, à 15h30 devant la préfecture pour une conférence de presse et à 17h30 en assemblée générale à la Bourse du Travail place Guichard pour décider des suites de la mobilisation.
Et on parle tout de suite de compostage des déchets organiques avec Pierre Rabhi.
Ah bah oui, puisque bon, vous en êtes aperçu, il est mort, et puis il est mort et tout le monde ne met pas le même ton dans sa réaction à la mort de Pierre Rabhi. D'un côté, il y a celles et ceux qui regrettent sa mort, qui en parlent un peu comme d'un messie de l'écologie, une personne humble qui leur a beaucoup appris sûrement à faire du compost, que ce soit dans ses livres ou dans ses formations. Et puis de l'autre côté, il y a celles et ceux qui le traitent plutôt de charlatan, d'homophobe, sexiste et bien d'autres, et ça à la grande surprise des premiers. Alors à l'occasion de sa mort, un petit retour sur ce que faisait et prônait vraiment Pierre Rabhi et qui n'apparaissait pas toujours si clairement et ouvertement dans ses premiers best-sellers, ce qui fait peut-être que certains d'entre vous seraient passés à côté. Alors ce qu'on entend maintenant beaucoup dire, c'est que Pierre Rabhi était un ponte de l'écologie inutile. Et vous connaissez maintenant tous l'histoire du colibri. Donc le colibri qui tout seul décide d'éteindre le feu de la forêt pendant que les autres animaux regardent sans rien faire. La morale étant en gros, n'analysez pas la situation globalement, ne faites rien ensemble, faites seulement ce que vous trouvez faire bon vous-même et puis peu importe l'efficacité réelle et peu importe ce que font les autres. Alors désolé si je heurte les personnes qui ont aimé cette histoire et qui ont trouvé foi en l'écologie grâce à elle. C'est vrai qu'elle est belle, c'est vrai qu'on est plutôt d'accord que, qu'il faut convaincre, qu'il faut agir, même quand personne ne le fait. Mais le problème de cette histoire, c'est que ça s'arrête là. Personne ne discute, personne n'analyse les causes du feu dans la forêt, personne ne lutte contre les vrais coupables. Dans cette histoire, on reste des individus qui font du mieux qu'ils peuvent, tout seuls dans leur coin. Et c'est pas un hasard, c'est vraiment ce qu'a promu Pierre Rabhi. Il le dit lui-même dans un entretien accordé à Mediapart, où on lui demande « Tous ces individus qui se transforment eux-mêmes sans arrêter l'incendie, cela ne vous pose pas de problème ?»« Ça ne me pose pas de problème, car je ne suis pas Dieu. Si j'étais Dieu, je changerais les choses. Je ne suis pas Dieu. » Donc ça, c'était Pierre Rabhi. Ce qui n'est pas un détail.
Il n'a pas toujours dit ça.
Il n'a peut-être pas toujours... Ah. En tout cas, ce n'est pas un détail. Et à notre avis, puisque quand on commence à déléguer l'ordre des choses à un Dieu supposé, les choses ont quand même plutôt tendance à ne pas changer et à se maintenir dans l'injustice. Pourtant, diraient certains, il écrivait des livres pour convaincre le plus de monde possible, il organisait des conférences, des formations. Et bien c'est vrai, sauf que tout ça, ça reposait quand même sur une initiative personnelle et s'adressait essentiellement à une catégorie de personnes, à savoir donc la classe moyenne éduquée. Cette classe qui achète et lit des livres, qui paye pour voir des conférences puisqu'elles coûtaient au minimum 15 euros et qui est prête à payer surtout pour des formations dans sa ferme, alors que ces formations consistaient essentiellement tout simplement à travailler sans salaire. Ou bien encore, elle était prête à payer un loyer plus un apport financier pour vivre dans le hameau écologique de son initiative et celle de sa fille. L'apport financier dont on parle ici, c'était pour info un minimum de 75 000 euros pour vivre dans un 35 mètres carrés. Donc, la sobriété heureuse de Rabhi est donc quelque chose de fondamentalement anti-révolutionnaire. Une approche qui a malheureusement eu le succès qu'on lui connaît, puisque vous aurez du mal à trouver un livre ou un site sur l'écologie qui ne la mentionne pas. Et ça s'inscrit dans la mode du développement personnel, qui a l'air de bien avoir imprégné nos esprits, alors que c'est politiquement dangereux, puisque ça consiste quand même, dans tous les domaines, à ne chercher la source de nos problèmes qu'en nous-mêmes, et à nous changer donc nous-mêmes, sans nous occuper des facteurs extérieurs. Et quand on y dit ça, on est quand même à deux doigts de dire que les pauvres sont pauvres parce qu'ils le méritent, et pas du tout parce qu'ils sont exploités, aliénés et discriminés toute leur vie. Et c'est parce qu'il ne remet pas en cause le système que Pierre Rabhi peut, en ayant bonne conscience, rencontrer et se faire financer par des grands groupes à qui il fournit un greenwashing efficace. Je dis fournit, mais fournissait, donc, puisqu'il est mort. Par exemple, les boulangeries Paul et puis même McDo. C'est bien le problème donc avec Pierre Rabhi, c'est qu'il n'analyse rien rationnellement, rendant ainsi possible sa proximité avec l'anthroposophie, mouvement limite sectaire et qui prône des choses plus ou moins dangereuses, allant de la biodynamie à des idées plutôt racistes. Et sur ce sujet en particulier, je ne vais pas développer parce que je parie que vous aurez beaucoup plus de détails dans le Canu Info du mercredi que je vous conseille. Et tout ça donc, ce serait déjà suffisant pour ne pas se lancer dans des éloges sur Pierre Rabhi, mais il était aussi homophobe, sexiste et défendait assez directement et clairement un système patriarcal. Il parle en effet régulièrement d'un ordre naturel assignant hommes et femmes à une place désignée. Donc pour rire un peu, je vais vous lire la version Pierre Rabhi de « Un papa, une maman ». Et donc là, je le cite. « La nature elle-même, c'est que pour qu'il y ait création, il faut mâle et femelle. Une chèvre a besoin d'un bouc, la vache a besoin d'un taureau. Donc ça, c'est une loi invariable à laquelle même les homosexuels doivent leur propre existence. » Voilà, donc un papa et une maman, ça se décline. Donc, Pour conclure, s'il vous plaît, soyez écolo, ok, si vous voulez. Si Pierre Rabhi vous a inspiré par certains aspects, c'est bien. Mais surtout, arrêtez de l'ériger en saint et restez un minimum critique sur l'ensemble de la pensée de quelqu'un, même si une partie de celle-ci vous plaît. Et puis, si vous n'êtes pas complètement convaincu, je vous conseille la lecture d'un article qu'on vous avait déjà conseillé ici. C'est Le système Pierre Rabhi du Monde diplomatique d'août 2018 qui a eu la bonne idée de le laisser en accès libre sur son site.
Et pour continuer dans notre rubrique déchets organiques à composter, on va parler de Zemmour et de son meeting de Villepinte.
Même pas à composter. Hein. Ce dimanche, des militants et des militantes se sont rassemblés à Paris pour refuser la présence de Zemmour dans la capitale et alentour. Après avoir été décalé suite à des appels à contre-manifestations antifascistes, le meeting de lancement de campagne de Zemmour se tenait cette fois-ci à Villepinte, dans le 9-3, au parc des expositions. Les contre-manifestantes ont dû faire face à une brave déchaînée qui les coursait aux quatre coins de l'esplanade, tout en subissant les charges répétées des milices fascistes qui jouaient le beau rôle de supplétifs de la police, mais rassurez-vous, sous le regard bienveillant de celle-ci. Rarement, on aura vu une telle connivence entre les forces fascistes et les forces de l'ordre, tant au plan idéologique que stratégique. Les attaques se sont ainsi multipliées à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de l'enceinte, où des militantes d'SOS Racisme ont été généreusement tabassées par la génération Z. Qu'est-ce qui leur a donc valu un tel déchaînement de violence ? Eh bien, une simple action symbolique consistant à afficher un t-shirt avec écrit « Non au racisme ». Ce message, pourtant pas si virulent, leur a valu une pluie d'insultes et de coups. Menaces contre les journalistes, chaises assénées sur les crânes, néo-nazis et hooligans du groupe Zouave armés de coups de poing américains qui coursent des antifascistes, il y a un beau tableau qui fait froid dans le dos. Or, il ne fait pas bon de décrier le fascisme en France. Et la répression a, elle aussi, battu son plein. Au total, on décompte 62 interpellations, dont 0 facho. Mais où est le problème ? Plus généralement, que retenir de ces 3 mois durant lesquels Zemmour a été propulsé par les grands médias sur le devant de la scène médiatique et politique ? Déjà que le fameux barrage macroniste n'a servi à que dalle. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le néolibéralisme autoritaire n'a pas cessé d'encourager les avancées de l'extrême droite. Le capitalisme de Macron s'est sans problème déployé dans un contexte d'offensive islamophobe, tout azimut, que ce soit au nom de la lutte contre le séparatisme ou celui de l'islamo-gauchisme, etc. D'autre part, la surexposition médiatique de Zemmour a entraîné une extrémisation de la droite bourgeoise classique. Les thématiques zémouriennes d'une France menacée ont complètement envahi les primaires des Républicains, par exemple récemment, jusqu'à coïncider à peu près complètement avec les propos d'un Éric Ciotti. La dissémination des idées fascisantes au sein du champ politique de tous bords, malheureusement, n'a pas trouvé de fin à la hauteur du danger qu'elle représente. Même si la candidature d'un Zemmour sera sans doute un échec électoral, celui-ci a déjà gagné sur le terrain idéologique à l'échelle des représentations, des obsessions et du langage. Alors, continuons à empêcher tout rassemblement de ce pantin pétainiste et soutenons les luttes antifascistes.
Et on enchaîne tout de suite avec la rubrique...
Local.
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 Oui, c'est Médiacité qui nous apporte cette semaine des détails sur la condamnation d'Alexandre Vincent D pour des violences sur son fils. Alors, qui est Alexandre Vincent D? Je vous vois bien, les néo-lyonnais, c'est le maire Les Républicains de Rieux-la-Pape, président de la fédération LR du Rhône. Ultra-sécuritaire, Vincent D envoie des ados de sa commune en camp paramilitaire depuis 2018 en échange du maintien des aides municipales à leur famille. Ces camps, organisés par l'association Laissez-les servir, est l'occasion pour les organisateurs de chanter au sens propre les louanges de la coloniale. Je vous laisse écouter ce beau reportage réalisé par l'association.
Alexandre Vincent D, le maire de Rieux-la-Pape, a une solution radicale pour les remettre dans le droit chemin. Ce matin, à la mairie, il prépare son entretien avec les parents des petits caillasseurs. En plus d'un suivi et d'une aide parentale, il a un marché à leur proposer.
C'est qu'on va leur proposer des stages où le but c'est aussi de sortir les jeunes de leur quotidien. Ils ont le droit de refuser. S'ils refusent, là par contre on peut passer à la suspension pendant un an de l'ensemble des aides qui sont données par la municipalité. À partir du moment où ils refusent de venir, ben, c'est la sanction qui se met en place.
Environ 200 euros d'aide par mois au moins. Les autres.
Dans la bataille ou la tempête, au refrain de ma chanson.
Dieu.
Vive la coloniale.
Merci monsieur, asseyez-vous.
Nassim et Ziane auraient caillassé des fonctionnaires à Rieux-la-Pape. Leurs parents ont accepté la proposition du maire. Suivre un stage d'une semaine un peu particulier sous la houlette du capitaine Nouroudine, un ancien officier des troupes de marine.
Force et courage!
C'est bon, des vacances pour eux, des vacances différentes, des vacances patriotiques. Il y a du soleil, il y a l'esprit camping, il y a aussi de l'éducation, il y a aussi la prise de responsabilité. Pour l'ensemble, là-haut.
Nous étions au fond de l'Afrique, l'orne jaloux de nos couleurs, en avant, en avant.
Voilà. Voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu
des vacances à Rieux-la-Pape,
de la vision des vacances de Vincent D et de sa vision de l'éducation. Pour revenir donc à Vincent D, le bien inspiré, vous avez aussi peut-être entendu parler de lui en mai de cette année, lorsque des violences urbaines avaient eu lieu sur sa commune. Il invitait alors ses administrés à dénoncer les violences, y compris lorsque leurs enfants en étaient à l'origine. Je le cite. Vous êtes citoyen, de l'autre côté de la cloison, vous entendez un père de famille violer son enfant ou tabasser son épouse, votre devoir de citoyen, c'est de porter assistance. Pour la délinquance des mineurs, il est également temps de porter assistance. Alors c'est rigolo qu'il cite l'exemple des violences intrafamiliales, puisqu'il semble être un habitué des faits. Il a ainsi été reconnu coupable le 18 novembre 2020 de violences sur mineurs sans incapacité par un ascendant. La victime, c'est son fils, âgé de 4 ans au moment des faits, donc les faits remontent à mars 2020. Aujourd'hui, il a 5 ans et demi. Il a dû suivre donc un stage de responsabilité parentale, mais il fait encore l'objet d'une nouvelle enquête pour mauvais traitement et violence sur mineurs pour des faits qui datent, eux, de juin 2020. C'est sur son fils, donc toujours. En octobre, son ex-épouse a de nouveau porté plainte. Cette fois-ci, elle a été classée sans suite par notre si cher parquet de Lyon, toujours plus enclin à poursuivre les antifascistes que des responsables politiques de premier ordre. Aux journalistes de Mediacité qui ont tenté de le joindre, Vincent D botte en touche. Il accuse son ex-épouse de manipulation parce que leur divorce se passe mal. Il a fini même par menacer les journalistes. Je le cite, « Si des choses sont publiées, je porterai plainte pour diffamation ». Alors, défense très originale, vous l'accorderez. On attend donc les prochaines étapes de ces procédures et on attend surtout les différentes réactions politiques des élus, les Républicains de la région, à ces condamnations de Vincent D.
Et puis, le temps d'accueillir nos invités, on va écouter un petit peu « Le temps passe » de Los Tres Puntos, un groupe qui passe à l'Intif en fait ce week-end.
We'll be right back.
Et vous écoutez toujours le Canu Info du lundi. Vous venez d'écouter Le Temps Passe de Los Tres Puntos. Et puis maintenant, on passe à nos interviews.
Et oui, hein, ces dernières semaines, les affaires de viol, d'agression, de harcèlement se multiplient encore. Il y a plein d'affaires impliquant des hommes politiques notamment qui sont ressortis. On pense à Nicolas Hulot évidemment, hein, qui a tranquillement continué sa carrière alors qu'il est accusé depuis plusieurs années. Le 22 novembre, c'était au tour de Jean-Vincent Placé d'être poursuivi de nouveau, hein, pour une affaire de harcèlement sur une ancienne collaboratrice. On va pas vous faire une liste à la Prévert des gros porcs qui continuent de sévir du haut de leur impunité. On voulait surtout rendre hommage à toutes les victimes du patriarcat et se donner un peu de force pour dénoncer collectivement les agresseurs qui agissent parfois sous l'œil un peu trop bienveillant de la justice. C'est pourquoi aujourd'hui on a décidé d'inviter une des plaignantes d'un procès qui va se dérouler demain, pour lequel un rassemblement est organisé devant le tribunal judiciaire de Lyon, rue Servian, à partir de 13h30. Donc déjà merci beaucoup d'être venu témoigner ici. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer l'affaire pour laquelle vous appelez un rassemblement donc demain?
Ouais, ben déjà merci à vous de m'inviter. Donc demain, ce sera le procès d'un herboriste de Lyon qui tient une herboristerie qui est sur la place Gailleton dans le centre, près de métro Ampère. En fait, il officie depuis plus de 20 ans dans cette herboristerie. Et il se trouve qu'il y a aujourd'hui 9 plaignantes qui, en fait 11 plaignantes qui ont donc porté plainte contre lui pour agression sexuelle. Donc on est 9 à passer demain. Voilà.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment il faisait pour ce qu'il a, visiblement il avait une stratégie un peu systématique pour pouvoir commettre ces agressions. Est-ce que tu peux nous expliquer
Ouais, c'est ça. Donc tous les récits sont à quelque chose près les mêmes, quoi. Donc c'est qu'il invite en fait les personnes qui se présentent, enfin les femmes en fait, qui se présentent dans son herboristerie à leur proposer un drainage lymphatique. Peu importe la raison pour laquelle les femmes se présentent dans l'herboristerie, quoi. Il y en a qui passent. Enfin, moi j'y étais allée juste pour acheter des plantes à la base. Et puis en fait l'agression sexuelle se déroule dans l'arrière-boutique. Où il fait que parler constamment, un peu endormir les victimes en enfumant de vocabulaire un peu technique, on va dire, et puis en insistant sur plein de choses, que il pratique des soins, que pour lui il n'y a pas de différence entre le corps des hommes et le corps des femmes, enfin bon voilà. Et donc, en fait, donc, il agresse sexuellement les femmes et oui, voilà.
Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment le début un peu de la bataille judiciaire, comment ça s'est passé avec les autres plaignantes et puis toi, comment vous avez décidé de lancer un peu cette bataille-là?
Du coup, moi, j'ai porté plainte parce que j'ai appris qu'il y avait eu déjà des plaintes qui avaient été classées sans suite. Du coup, ça m'a été un peu insupportable d'apprendre ça, surtout que, enfin, du coup, une des deux plaintes avait eu lieu avant mon agression, donc ça aurait pu être évité, quoi. La deuxième plainte classée sans suite, j'en ai eu connaissance parce que je connaissais la victime, qui m'a donc raconté comment elle avait été pas très bien reçue dans le commissariat, enfin un peu considérée et vite classée sans suite parce qu'elle s'était pas rendue disponible pour une confrontation avec l'agresseur. Donc j'ai décidé de porter plainte un peu pour voir si on pouvait le faire d'une manière où ça serait entendu. Du coup, je me suis renseignée auprès d'un avocat qui m'a conseillé d'aller au commissariat du 3e et du 6e, où il y a un service spécial pour les agressions sexuelles, quoi, des mœurs ou des familles. Et donc là, la plainte a été entendue. Donc ça, c'était en juin 2017, il y a 4 ans.
Et les faits, ils remontent à...
Et les faits, les miens, 2016, mais sur l'instruction qui a été ouverte suite à ma plainte, ils couvrent une période de 2013 ou 2014, je ne sais plus exactement, jusqu'à 2017. Donc les 9 plaintes qui qui font partie de bon, qui ont suivi la mienne en fait, c'est sur cette période-là.
Okay. Et comment vous êtes retrouvés et vous avez réussi collectivement à vous coordonner, à sortir du silence et de l'isolement?
Du coup, déjà, ce qui m'a permis aussi de vraiment prendre conscience que c'était vraiment une agression sexuelle que j'avais subie, c'est de taper son nom sur Google à cet herboriste, où je suis tombée d'abord sur les avis Google, où il y en avait une dizaine, et sur les 10, il y en avait 6 qui parlaient de quelque chose de semblable à une agression sexuelle. Donc bon, ça c'est déjà, ça m'a conforté dans cette idée-là. Du coup, moi, j'ai rajouté mon commentaire en laissant un contact, en disant que j'aimerais rentrer en contact avec d'autres victimes. Voilà, j'ai fait la même chose sur sa page Facebook, et donc de ça, en fait, j'ai pu avoir d'autres contacts de victimes.
Et là, tu nous as parlé tout à l'heure un peu de comment ça s'était passé, toi, pour déposer plainte. Comment ça s'est passé, le traitement policier et judiciaire en général, notamment, il était sous contrôle judiciaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé, le temps de l'instruction, qui a été très longue?
Oui. Donc, très peu de temps après ma plainte, ils ont perquisitionné son cabinet. Au moment où j'ai porté plainte, j'ai dit, parce que je me doutais que ça allait être une possibilité, j'ai dit que je voulais pas être confrontée, que je voulais pas du tout avoir affaire à lui, parler en sa présence, l'entendre ou quoi. À ce moment-là, la policière elle me laissait entendre que c'était possible, et donc peu de temps après, il a été perquisitionné, donc la police m'a appelé très très rapidement, le jour même ou le lendemain, quoi, parce qu'il était en garde à vue, en m'invitant, mais ça ressemblait plus à une convocation. Enfin, c'était bien sous pression, quoi, de venir faire cette confrontation. Donc j'ai fini par m'y rendre, quoi, parce que on me faisait presque comprendre qu'il allait avoir une grosse différence de traitement de ma plainte, quoi, s'il y avait cette confrontation ou pas. Donc je voulais pas l'avoir fait pour rien. Donc je suis allée à cette confrontation. Suite à ça, il a donc été mis en examen pour agression sexuelle aggravée, du fait de sa position de soignant, quoi, enfin l'usage de son autorité de soignant. Et donc il avait un contrôle judiciaire où il devait ne pas rentrer en contact ou s'approcher des plaignantes ne plus prodiguer de massage, mais en vérité son cabinet est dans sa boutique était toujours ouverte, ses moyens de communication étaient toujours en place. Enfin, je me faisais pas trop d'illusions sur le fait qu'il allait continuer à agresser des personnes, ce que j'ai pu constater parce que je continuais à recevoir en fait des témoignages, ouais, grâce aux messages que j'avais laissés sur internet. Donc je savais qu'il continuait, alors j'envoyais les impressions d'écran un peu de ces témoignages à mon avocate, qui me disait qu'on pouvait pas en faire grand-chose. Les personnes avec qui j'étais en contact ne voulaient pas porter plainte, et je comprenais très bien pourquoi. Donc voilà. Et puis en fait, finalement, mon avocate a fini par me dire, par me répondre à un de mes messages qui continuait de lui dire « Regardez, il continue encore », par me dire « Ah, mais en fait, je vous ai pas dit, mais il a fait appel de cette décision et maintenant, il a le droit, en fait, de le faire. Du coup, donc on peut rien faire. »
Il avait le droit à condition de...
C'est ça, il devait simplement faire signer, en gros, avant le massage, faire signer un papier comme quoi la personne était consentante et comprenait bien de quoi il s'agissait, et un second papier à la fin pour dire que ça s'était bien passé.
Voilà, comme si les femmes n'étaient pas capables de voir la différence entre un massage et une agression sexuelle. Ça fait toujours plaisir de voir que des JLD bien informés se suppléent à nous pour jauger de ce genre de choses.
Alors là, bon, il y a plusieurs plaintes, tu nous l'as dit, mais il y a aussi plusieurs échéances judiciaires. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ces échéances?
Du coup, demain c'est le procès de ce que les avocats appellent la première vague de plaintes, qui est donc les 9 plaintes qui ont suivi la mienne, dont l'instruction a été close il y a 2 ans. Sauf que suite à ça, il y a donc 2 femmes qui ont porté plainte en 2021, une pour agression sexuelle et une pour viol. Donc là, l'instruction est en cours. Donc je sais pas trop, j'imagine que probablement ils vont élargir un peu les dates, quoi, enfin les périodes dont il est question. Après, bon, il y a une autre échéance judiciaire, c'est que l'herboriste a porté plainte contre moi pour diffamation suite au message que j'ai laissé en ligne. Donc ça devrait avoir lieu en début 2022.
Okay, bon, on restera un peu informé là-dessus, parce que c'est quand même une des stratégies aussi des agresseurs dès lors que tu les dénonces publiquement, que de porter plainte pour diffamation. Est-ce que tu peux un peu nous parler de pourquoi vous avez décidé de rendre ça public et d'appeler aussi un rassemblement ?
Ouais, ben du coup, pour moi la première raison c'était un peu de retrouver toutes les victimes de ce type, parce que moi c'est vraiment ce qui m'a permis de voir d'autres commentaires, de voir que c'était arrivé à d'autres femmes, enfin du coup vraiment de comprendre ce qui s'était réellement passé, ça m'a permis vraiment de sortir de l'état de culpabilité, de honte que dans laquelle on se trouve suite à une agression comme ça. Et je pense que plutôt ça nous est permis, mieux on s'en remet quoi. Du coup c'est que vu qu'on sait qu'il a officié pendant plus de 20 ans, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de femmes qui ont dû avoir affaire à lui. Et puis la deuxième, c'est c'est juste participer un peu à ce truc de libération de parole qui fait que plus en fait on en parle, plus c'est facile pour les autres d'en parler, moins c'est une honte.
Et ouais, pour s'armer face à ça, c'est clair que c'est essentiel, je pense.
Et du coup, en ce qui concerne le procès de demain, bon, c'est peut-être un peu bête comme question, mais vous en attendez quoi, concrètement ?
Pas grand-chose. Qu'est-ce qui va se passer dans le tribunal demain ? Bon, non, c'est plutôt que ça permet une médiatisation, quoi. C'est plutôt ça qui rend le procès intéressant. Je pense que ce qui va s'y passer à l'intérieur, je sais pas si j'en attends grand-chose.
Ok.
Bon, on verra, on espère quand même qu'il en sortira des choses, en tout cas, qui va vous permettre de sortir de cet isolement et de cette culpabilité que ça fait peser sur les victimes et pour laquelle la justice, malheureusement, n'est pas souvent d'une très grande aide. On rappelle, c'est à 13h30 demain, devant le tribunal judiciaire rue Servian, à côté de la place Guichard. Tu penses qu'il y en aura pour toute l'après-midi ? Les gens peuvent vous rejoindre un peu plus tard si...
Ouais, ou je sais pas, les avocates... Enfin, une des avocates là, qui n'est pas la mienne, disait qu'il y en aurait pour bien 2-3 heures. Voilà.
Donc voilà, on invite tous les auditeurs à passer dans la journée devant le tribunal judiciaire pour soutenir toutes les plaignantes qui passent demain pour essayer un peu de montrer qu'on est solidaires et qu'on réagit collectivement aussi aux conséquences du patriarcat.
Eh ben, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et c'est une très bonne introduction pour l'agenda. Donc rendez-vous demain 13h30 devant le tribunal judiciaire de Lyon, c'est 67 rue Servian. Et puis... On a plein de choses demain.
Et puis demain, au même moment, il y aura donc la manifestation des secteurs de la santé, du social et du médico-social à 13h30, place Jean Masté, dont on parlait tout à l'heure. C'est rejoignable à 15h30 pour une conférence de presse devant la préfecture. Et à 17h30, il y a une assemblée générale à la Bourse du Travail, place Guichard.
Et puis si vous n'y êtes pas, demain à 17h, il y a aussi un rassemblement contre l'expulsion de deux élèves du lycée Douaneau à Vaux-en-Velin. Donc c'est devant le lycée pour un goûter solidaire.
Ce week-end, il y aura l'Antifa Fest vendredi et samedi soir au Grand Zéro, métro Vaux-la-Soie. Donc deux soirées, vendredi à partir de 19h et samedi à partir de 19h.
Pensez à acheter vos places sur internet. Et puis dimanche, donc le 12 décembre, à l'Illégalité, il y a une cantine de soutien à la révolution soudanaise à partir de 12h. C'est co-organisé par le réseau des activistes soudanais et soudanaises de Lyon et le collectif Solidarité QC. Pardon. Et l'Illégalité, c'est toujours au 6 rue de l'Égalité à Villeurbanne, au métro QC.
Et dimanche 12 toujours, de 13h à 18h à l'atelier des Canulars, il y aura la présentation publique d'un projet de création d'un lieu féministe autogéré.
Et puis voilà, merci de nous avoir écoutés et puis à la semaine prochaine.
fait comme il dit. Chat, chat, chat. Le daron a raison, fait comme il dit. Plus de puff qu'un meudage, la lime jusqu'à midi. Obligo, tu joues bien la comédie. Lui c'est un donneur, c'est tout ce qu'on m'a dit. Non pas, non mes rats, j'suis zépo avec mes rats. Tu t'es féro d'avant, acheté par la caméra. Dans le noir, gros, on fait pas de chrome. Triple go, sangui, momo, Monaco. Sur cette terre, aucun fils de peut me juger. Vu que j'ai 300 dossiers à ton sujet. À la tête des petits mythos, des petits bigots. Au soleil, la moustache comme El Chapitito. Comme un paquito, berce à part en guerre de schlass. Rebeu, frais, nouvelle paire de schlap. Si je te soulève, c'est pas sur internet, gros. Si je te soulève, c'est pas sur internet, gros. Le bien que je fais, c'est pas sur internet, gros. Le bien que je fais, c'est pas sur internet, gros. Si je te soulève, c'est pas sur internet, gros. Le bien que je fais, c'est pas sur internet, gros. Au moins deux salopes dans un intérêt glow. Deux, trois mois et les chiens te pètent, gros. Avec Béné, avec fils, avec Béné, avec fils, avec Béné. Cœur est glacé, cœur est glacé, cœur est glacé, cœur est glacé. Avec fils, avec Béné, avec fils, avec Béné, avec fils, avec Béné, avec fils, avec Béné. Cœur est glacé, cœur est glacé, cœur est glacé, cœur est glacé.
J'entends leur douleur, je sens que j'en suis très.